Leslie John au couloir en numéro 2. Allez, Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Peter Marquet, je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside, pretty play from Tony Parker.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Y'a pas de Diapéro.
Allez Louis. Allez mon petit bonhomme. Oui mon petit bonhomme. Bravo.
On est tout seul.
Et salut à tous, merci d'être à l'écoute, d'être à l'écoute de l'Instant Sport. Ça y est, Patrick vient d'arrêter de téléphoner. C'est sympa, Patrick, salut.
Salut, ouais, mais j'ai tous les droits puisque je suis en tête du concours des pronostics.
Allez, ça y est, c'est vrai. Deux points, bravo, France-Islande, voilà. Ou plutôt Islande-France.
Merci,
zéro,
merci à Ben Yedder d'avoir raté ce but tout fait dans les arrêts de jeu.
Ouais, qui aurait permis à Cucu de marquer un point.
Et ouais.
Mais non.
C'est ça.
Mais tu en m'as le rappelé, deux points, moi j'ai un point, Tom a un point et le reste est à zéro. Vraiment naze. Julien, Mathieu, Dololo, Nico. Ouais, mais c'est un point qui compte beaucoup, tu sais.
Ouais.
Et qui peut compter encore plus en fin de saison. Mais tiens, salut Laurent Julien, comment vas-tu?
Bonjour tout le monde.
Tu es en forme?
Oui, très bien.
Salut Julien Gall.
Oui, bonjour à toutes et à tous.
Et enfin, Nico Thomas, qu'on a entendu aussi. Salut Nico.
Bonjour tout le monde.
Bon, alors les amis, ce n'est pas le score du week-end. Vous savez, j'ai mis une nouvelle rubrique en place. Hein. On va parler du... Alors... du fait du week-end. Alors, ce n'est pas le fait que pour ses premiers commentaires sur la chaîne de la Fédération Française de Volley, Laurent ait commencé à commenter le match samedi à 20h pour finir dimanche à 2h du matin. Le fait du week-end se passe en rugby, messieurs. Qu'est-il?
Eh oui, 96 donc, oui.
Non, ce n'est pas ça.
Ah ben là, je peux te dire, il y a eu un résultat dans la poule de Mende.
Ce n'est pas un résultat, j'ai dit, c'est d'accord. Un fait. Il s'est passé quelque chose en rugby ce week-end, un petit événement.
Parce qu'il y a une 96 ils ne se sont pas bagarrés.
Ici, ils se sont bagarrés, ce n'est pas ça.
Ah. France-Angleterre annulée ?
Non, c'est l'Auxerrien.
Le jeune Mandois qui était titulaire avec Clermont.
Bravo, monsieur Julien Gall. Première titularisation pour le troisième ligne, Clément Lannan, jeune passé par le RCML en top 14 ce week-end. Et premier essai contre Bègles-Bordeaux, malgré la défaite, 42-15. Voilà, bel événement quand même. Hein.
Et sur les notes de l'équipe, ben, c'est pas noté, mais ils mettent en évidence les meilleurs joueurs. Donc du côté de Clermont, ils ont mis deux joueurs vraiment bons sur ce match, dont Clément.
Super.
Belle reconnaissance.
Et maintenant, on attend son frère Thibaut.
Voilà, c'est des frères jumeaux. Faut le préciser. Qui est aussi à Clermont d'ailleurs. Hein, dans la même équipe.
Oui.
Comment t'as fait pour avoir une info comme ça, toi? Parce que t'es celui qui connaît le moins le sport de nous tous, quand même.
Ouais,
ici.
Mais je suis qui a peut-être le plus d'infos, le plus de réseau. Relations.
Il a du réseau.
J'ai du réseau.
Hein. C'est son taf de.
On m'appelle
c'est
le Bouygues.
Ouais. Mais à l'Auxerre, tu vas pas avoir beaucoup de réseau, mon pauvre, alors.
C'est le roi de Facebook.
Donc Julien Gall, comme tu as trouvé la bonne réponse, tu auras le droit à choisir les pronostics si tu voudras parler en premier ou en dernier.
Ah ouais, cool.
D'accord.
Ouais.
Il fallait que je trouve un truc, voilà, je l'ai trouvé là sur le moment, écoute, c'est comme ça. Allez, du coup, on va commencer avec le RCML qui est en promotion en Occitanie, joué à Moguio et perd au final 32-13, car les Lozériens menaient 13-10 à la mi-temps. Bagarre générale, exclusion définitive pour un joueur mandou à la 50e. Du coup, Mande qui joue à 14, c'est dommage. Hein, mené 13-10 et seconde mi-temps, catastrophe. On prend 22 points.
Et oui, parce qu'au final, ça fait 6 essais pour Moguio et un seul pour Mande.
Tu dis carton rouge pour un mandou, il n'y a pas eu un carton rouge côté Hérolté?
Non, parce que c'était une deuxième jaune.
Ah, d'accord.
Deuxième jaune.
Voilà. Sans glaçon.
Ça fait rouge. Hein.
Ouais, c'est ça.
Comme au foot.
C'est dommage.
On attendait mieux ou pas, Patrick, pour ce déplacement à Moguio? C'est toujours difficile d'aller là-bas.
Moguio était en tête de cette poule de promotion d'honneur. Ils étaient en honneur avec Mende la saison dernière, donc c'est deux clubs qui descendent. Mais il faut reconnaître quand même que Moguio a mieux attaqué cette nouvelle saison. Et donc ça fait partie des équipes qui vont dominer ce championnat. Après, pour le RCML, c'est vrai que ça fait quand même déjà trois défaites. Et une seule victoire contre un club qui prend carton sur carton, puisque je parle de 96-0. Donc, ils ont perdu chez eux. Donc Cabestany, 96 je crois, hein, c'est ça, ou 93, enfin, en tout cas c'est plus de 90, chez, sur terrain contre Plage d'Orbe. Donc c'est vrai qu'un club en totale perdition, donc c'est vrai que pour le RCML, début de saison plus que compliqué au niveau des résultats.
Après, on sait qu'on joue toujours très bien à domicile, un peu moins bien à l'extérieur. Il y a eu plus de matchs à l'extérieur, non ? Donc c'était pareil, c'est pareil.
Oui, parce qu'il y a eu qu'un seul match. Non, il y a eu deux matchs.
Il y a eu deux et deux,
puisqu'on a perdu, on a perdu une fois à domicile le premier match de la saison contre justement Plage d'Orbe.
Ouais. Ok. Ouais. Bon, on verra ça. On verra ça. Ouais.
Et pas de match ce week-end, puisque le club qu'on devait recevoir est lui forfait depuis le début de la saison, forfait général. C'est Côte Vermain, c'est juste à côté de Perpignan.
Ah ben victoire alors.
Voilà, ben, c'est un exemple, puisqu'il, comme il a fait forfait.
Toutes les équipes gagneront.
Voilà, puisqu'il a fait forfait avant le début du championnat, donc il y a un exemple à chaque journée.
Et ouais. Bon, très bien, merci Patrick. On va passer. Moi j'ai prochain match le 27 octobre à Bagnols-sur-Cèze.
Oui, parce que donc ça fait.
Donc après, c'est dans deux semaines.
C'est ça. Tu as entièrement raison.
Ok, super. Le MVL, le Mont-de-Volée-Lozère, débutait son championnat ce week-end avec la réception du Plessis-Robinson et première défaite 3-7-2, 36-34, 25-19, 27-29, 19-25, 15-12. Beaucoup de choses à dire, messieurs, sur ce match. Qui veut commencer ?
Laurent, il était au cœur de l'action.
Eh ouais, Laurent, il commentait.
Non mais c'est normal, pour son premier match en tant que commentateur, il fallait bien qu'il se passe quelque chose de déceptionnel. Et mais nous l'avons eu, un match de 3 heures.
Et un bel article de Julien Gall sur Midi Libre.
Un match de 3 heures.
Hier soir.
Un match de 3 heures et un premier set de 45 minutes.
Hein. La question que tout le monde s'est posée, est-ce que tu as eu le temps d'aller aux toilettes ? Comment tu as fait ?
Toi qui bois beaucoup
d'eau pendant les, les matchs.
Du coup, à la fin du deuxième set,
il y avait une
pause de 10 minutes.
Tu n'y allais qu'une fois pendant 3 heures.
Voilà.
Ouf. Il est entraîné, il a une grosse.
Non, mais c'est, enfin, on peut parler d'autre chose si vous voulez.
Ouais, on va parler du match.
Non, c'était. Les chiffres parlent pour eux. Un début de match. On perdait 2-0. Donc, on pourrait dire raté. Mais le premier set, on le perd 36-34. Ça a été un set d'anthologie, évidemment. Et ce qui est rageant, c'est qu'on a eu plusieurs balles de 7 et en plus dans ces balles de 7 on a eu des balles offensives, je pense qu'il y en a eu au moins 4. Donc voilà, ça aurait pu être ça aurait pu basculer tout de suite à notre faveur sur ce match et donc voilà, le deuxième set évidemment quand tu as perdu au bout de 45 minutes de si peu ben voilà, le deuxième set il y a pas eu opposition. Et voilà, et puis l'équipe s'est requinquée, est revenue à 2-2 au mental. Et puis voilà, cinquième set, on sait que ça tient à rien. Et ça s'est joué à un petit ballon qui a touché le point rouge. Là, je sais plus
comment,
la mire. L'arbitre l'a donné le point au Plessis Robinson. Nous, de là où on était, on le voyait plutôt côté Mandois. Et voilà, après petit écart de deux points et c'est fini.
Patrick, il était à qui ce point ? Il était pour qui ?
C'est vrai que je suis plutôt d'avis de ce que dit Laurent, parce que l'arbitre a considéré que le ballon avait directement touché donc la mire, donc ce qui arrête immédiatement l'échange et donne le point à l'adversaire, alors que à mon avis il a d'abord touché la bande du filet et après il aurait touché pour moi un joueur du contre du Plessis et donc c'est après le contre que ça a touché la mire. Donc
c'est exact.
À mon avis, le point,
c'est ce que j'ai.
Le point aurait dû être pour Mande.
Et on serait revenu à un point.
Voilà.
À ce moment-là, et on passe à trois points pour les autres.
Exactement. C'est vrai que dans un tie-break,
faire naquer, là, vous êtes
genre,
en train de me dire.
Ce genre d'erreur est préjudiciable, c'est vrai.
C'est pas une arnaque, c'est une interprétation de l'arbitre qui n'était pas à notre faveur.
Après, c'est vrai que ça va tellement vite, et au bout de trois heures, bon, mais l'arbitrage a été moyen quand même. Pour être quand même tout à fait light ou soft, je sais pas comment tu as pu te retenir
derrière
ton micro.
Figurez-vous que dans le
volley, un arbitrage moyen. Ouais.
Quand on commente pour la Fédération française de volley, il y a un cahier des charges à respecter.
Ah.
Et de gueuler après un arbitre est totalement prescrit.
D'accord.
Donc,
mais si tu l'as pas lu,
désaccord.
Ah, c'est tout. On va demander à notre VAR, Julien Gall.
J'ai aussi demandé à l'arbitre d'enlever la buée qu'il avait devant ses lunettes.
Ah.
Mais donc ça, c'est pas une insulte, c'est pas.
Ah, ça, tu peux.
Oui.
Alors, pour tout dire, on était, nous, dans les tribunes, et donc Laurent est situé sous les tribunes, et donc, à intervalles réguliers, on disparaissait pendant une ou deux minutes, et on se disait peut-être que c'est Laurent qui est en train de lui mettre deux, trois claques, pour le remettre...
Voilà. Non, j'ai bien essayé de le... De lui faire comprendre qu'il fallait qu'il siffle plutôt pour les bleus, quoi. Même la petite jeune arbitre de touche, je lui faisais signe qu'elle regarde bien les pieds du serveur, mais elle me regardait pas moi. Elle regardait, elle regardait la ligne.
Ah ouais, ça n'a pas marché pour les arbitres.
Au moment, elle s'est fait engueuler par les remplaçants. Et oui, mais voilà.
Et ouais. Bon,
j'essayais d'importer ma touche à l'édifice.
D'accord. Et on peut le réécouter ou pas, ou c'est du one shot?
Je sais pas.
Oui, si, tu as du replay. En plus, alors que le direct est payant, il faut s'abonner à la chaîne. On parle de fédération, mais c'est sur le site de la Ligue.
Ah, c'est la Ligue.
LNV. Et donc, bon, le direct est payant. Par contre, le replay est gratuit. Donc, n'hésitez pas, allez-y.
Voilà. Pour, enfin, se taper 3 heures pour regarder Julien lundi soir.
On a dit 200 fois le nom de Jambon, le pointu adverse qui s'appelait Jambon. Alors, c'est vrai qu'il y a eu peut-être quelques dérapages par rapport à son nom.
Et du coup, comme l'année dernière, un tie-break qui ne réussit pas.
Et oui, tu as raison. Un peu le syndrome tie-break. Comme ça nous est arrivé souvent la saison dernière. Et bon, moi, il y a un truc qui m'a vraiment marqué dans ce match, c'est que, par exemple, il y avait une erreur en réception du Plessis Robinson, c'est-à-dire que le ballon repart directement dans le camp mandois, et donc on a eu le plus grand mal à marquer un point, alors que en principe c'est des points immanquables. Et à mon avis, on a un pourcentage faible sur ce yard d'action. Alors que nous, quand notre réception mandoise se ratait, c'est-à-dire que le ballon passait directement du côté de Plessis, eux, ils devaient être à 90 ou 95% de points marqués, alors que nous, on n'est peut-être même pas à 50% sur ce yard d'action. Et je trouve qu'au final, ça fait peut-être un peu la différence. Je ne sais pas ce que tu en penses, Julien, mais moi, j'ai été marqué par ce genre d'action. Mabiala en a raté une énorme. West en a raté une énorme aussi. Et puis, même quand le ballon revient, nous, on fait des passes au lieu d'attaquer de suite et de les exploser. Ça m'a marqué.
J'ai
quoi.
Souvenir vraiment d'une action là où il y a une mésentente entre passeur et West. West, il s'enlève et il pensait qu'il y avait quelqu'un derrière lui. Et en fait, le ballon, il est rattrapé à l'arrache. Du coup, il va dans le camp du Plessis, mais il y avait un peu des mésententes. Après, je pense que c'est aussi dû peut-être à une première journée de championnat. Où il y avait sur le 6 de départ du MVL 4 nouveaux joueurs. Donc quand on sait que le volley c'est beaucoup d'automatisme, de combinaison, c'est des choses à trouver. Je ne sais pas si le Plessis a beaucoup changé pendant l'intersaison.
À l'info. Parce qu'il y avait ce central là qui nous a fait mal, le 16.
Oui.
Donc qui joue à Lyon avec Jambon. Donc et puis il y avait ce russe, Bayon, le russe, le numéro 19, que j'ai pas trouvé finalement si bon que ça. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que Plessis Robinson, la grande recrue, c'est un Brésilien qui jouait à Saint-Nazaire et qui mesure 2m11, c'est-à-dire le joueur le plus grand de Ligue B. Bon, mais il n'y était pas. Donc c'est vrai quand même, ça leur faisait un joueur important à moins.
Je demandais sur les mouvements intéressants, parce que j'ai trouvé au début du match une équipe du Plessis mieux en place, mieux en jambes. J'ai trouvé justement, eux, ils arrivaient bien à se trouver, au contraire du MVL. Et ils ont toujours mené au score, en fait. Premier set, deuxième set, et ils n'ont jamais réussi à... Enfin, ils n'ont jamais vraiment douté dans ces sets-là, quoi. Et j'ai trouvé qu'ils étaient mieux en place. Mais c'est sûr que la perte du premier set, c'est déjà le tournant du match, en fait. Parce qu'il y a eu une débauche d'énergie incroyable. Je pense qu'un set de 45 minutes, c'est du jamais vu,
ouais,
presque.
Ouais, quasiment. Ouais.
36-34, 70 points, c'est énorme. Et j'ai eu peur que dans le troisième, ça recommence. 29-27 aussi, je me suis dit, ça y est, ça va repartir. Ils ont réussi à stopper au bon moment, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le Plessis, troisième set, ils ont une balle de match déjà. Oui. Ils mènent 27-26 au troisième. Et ils ont donc justement cette balle de match, alors que dans ce set-là, Mende menait 21-15 ou quelque chose comme ça. Donc je me suis dit, ils vont, voilà, ils vont dérouler dans cette fin de troisième. Est-ce qu'ils ont eu un peu de quoi trembler à l'approche de la fin du troisième? Le Plessis en a un peu profité avec le 14, là, le Brésilien qu'ils avaient, là,
ouais.
Félicissimo, là, quelque chose comme ça. Là.
Luis Gustavo,
très bon joueur.
Ouais. Pour ceux qui aiment le foot, il avait la même coiffure. Il avait la même coiffure que Luis Gustavo.
Il ne s'est pas claqué,
le connaisseur.
C'est vrai que par contre, au service brésilien,
il a fait mal.
Totalement
comme notre Brésilien Mineiro qui a été le seul à apporter du danger sur les services.
Il a fait une très bonne série au deuxième set.
Justement.
Mineiro, il y avait, si je ne dis pas de bêtises, deuxième. deuxième set, il y avait 24-12 pour,
ah oui, on est remonté
pour le MVL. Il a fait 7 services et du coup, il y a eu 24-19. Et après, 25-19, ça faisait un peu moins lourd comme score dans le deuxième set où il a fait une grosse série. Et voilà, mais bon, après, je pense pas qu'il y ait de quoi non plus s'inquiéter. Plessis a fini quatrième l'an dernier, je crois, en Ligue B. Donc,
Oui, ouais, oui, c'est qu'un premier match. Ouais,
Par contre, du côté MVL, moi, j'ai vraiment apprécié.
On va faire les plus et les moins niveau joueurs.
Ce que je voulais demander là pour les gars comme moi qui n'étaient pas au gymnase et par rapport.
Vous pouvez revoir la vidéo sur le site
qui a tourné. Voilà, au niveau de l'effectif mandois, si on pouvait faire un petit focus sur les joueurs.
Dis-nous les plus et les moins de l'équipe mandoise.
Les pompes à vélo.
Avant d'y venir,
les cornichons.
Ce qu'on peut dire sur ce premier set, qui était vraiment exceptionnel, c'est que les deux équipes ont raté des immanquables. On parle d'un immanquable au handball quand le joueur se présente seul face au gardien à quasiment à 7 mètres. Et bien au volet, c'est vrai que c'est quand le ballon il est super bien placé, tu n'as plus qu'à attaquer, tu n'as plus qu'à finir. Et au final, tu te trous. Et donc c'est vrai que Plessis Robinson aurait pu conclure ce set
bien avant.
Mais aussi, Mande à une ou deux occasions, on se demande encore, en particulier, moi j'ai en tête une action de Minero, c'est totalement hallucinant qu'un joueur comme lui ait pu rater une balle qui, pour nous, des tribunes, nous paraissait hyper facile et ça aurait pu conclure ce premier set en faveur du MBL.
Non, mais à la fin du match, les joueurs plus que tu as ressorti de cette équipe et les moins peut-être.
Oui, alors plus, moi pour Mande, le meilleur joueur du match. C'est le central, Vincent Mabiala, qui jouait en Espagne l'année dernière, qui est international congolais, qu'on annonçait troisième meilleur contreur du championnat espagnol, de première division. Et c'est vrai que vu le nombre de contres qu'il a fait du match, je pense que ça va être une arme vraiment positive pour l'équipe.
Pour compléter ce que dit Patrick, alors j'ai pas le chiffre exact, mais je crois qu'il met environ 17 points dans le match, ce qui est énorme pour un central.
Les autres plus.
Mabiala, juste pour compléter ce que dit Patrick, à un moment, il a fait deux contres, il allait deux fois au bloc, il a sauté très haut, ça a fait du bruit. Là, on a vu que si ça, c'est sa qualité, s'il est capable de répéter ça souvent dans la saison, ça va être une très grosse arme parce que même Piancourt a bondi. Quoi.
Disons que Mabiala a réussi à faire oublier Rangel, notre Brésilien de la saison passée, qui est parti au Panathinaikos d'Athènes. Où il jouera la Ligue des Champions. Enfin, c'était un sacré phénomène. Je pense que sur ce match, il l'a déjà fait oublier.
D'accord. Autre plus ou sinon, on peut passer au joueur qui tombe dessus.
Moi, j'ai bien aimé aussi le remplaçant de Loïc Alphonse, le pointu, donc qui est aussi, il vient des îles, Feipoulé Kolokilagi, donc qui joue à Nancy en Ligue B la saison dernière. Alors, c'est vrai qu'il a été un peu irrégulier tout au long des 5-7, mais moi, je pense qu'il va vraiment monter en puissance. Et surtout, ce qui m'a étonné, c'est le bruit quand il tape dans le ballon. Je peux vous dire que ça fait du bruit et ça claque vraiment. Et une grosse puissance de ce joueur. Et je pense que ça va faire partie aussi des éléments forts de l'équipe.
Allez, un troisième.
Un troisième qui on pourrait citer.
Vas-y, Laurent.
Allez, moi j'aide Patrick. Je citerai la très très bonne rentrée, mais c'est pas une surprise. De Ali Kerbois, qui est rentré et qui a, pour ma part, amené de la stabilité, de la régularité, et puis, touche technique aussi.
Il n'a pas démarré, t'es pas si sûr.
Non, il était remplaçant, mais on s'est vite rendu compte qu'il comptera encore dans l'effectif cette année, malgré son âge.
Et 36 ans, je crois. Kevin Velay, pour parler des
deuxièmes libéraux maintenant, donc c'est toujours Chaillou le titulaire. Il est rentré sur 4-5 actions peut-être dans le match.
Il a fini le time break. Après les deux erreurs de réception d'Anthony Chaillou, il a fait rentrer. Mais moi il y a un joueur, et c'est vrai que parfois je dis que au niveau de la passe, peut-être c'est pas notre poste le plus le meilleur, mais là je dois reconnaître, et je le dis très sincèrement, j'ai vu un bon Jesús Bruque, l'Espagnol, qui fait sa deuxième saison au MVL, et je l'ai trouvé vraiment bien dans l'alternance, et je lui reprochais parfois de pas utiliser trop ses centraux, alors que c'est l'année dernière c'était vraiment nos deux meilleurs joueurs, Mokanou et Rangel, comme tu le disais, et là j'ai trouvé que il a vraiment joué avec Mabiala et West. Et donc cette alternance-là, moi, ça me convient bien et je trouve qu'il a plutôt fait un bon match.
Les moins de ce match ? Les petites déceptions ?
Les moins, je dirais que la réception. Je trouvais qu'on a été en danger pas mal de fois, et bon, et j'ai vu Anthony Chaillou parfois se mettre le maillot sur la tête et pester. Alors c'est vrai que libéro c'est un poste ingrat, parce que tu peux faire sur 10 réceptions tu as fait 7 ou 8 super, tout le monde considère que c'est normal, et puis après tu te trouves deux fois et puis c'est la catastrophe. Et c'est vrai que c'est la catastrophe, parce que au tie break il fait deux zips sur deux services, donc ça part dans les tribunes, ça fait deux points pour le Plessis, et quand tu perds 15-12, tu vois que ça fait, au final ça fait quand même la différence, quoi. Mais c'est un poste vraiment ingrat, ils n'ont pas le droit d'attaquer, il faut qu'ils soient tout le temps quasiment à 100%, et dès qu'il y a une petite faiblesse, ça se... c'est un peu comme un gardien de but. Il prend un but entre les jambes, ça se voit de suite et personne ne peut te rattraper.
C'est sûr. On est la seule équipe qui a perdu à domicile pour cette première journée.
Ouais.
Les autres résultats,
et
ça a donné...
Juste, il y avait du monde à Piancourt là pour cette reprise, la salle ou quoi?
C'était quasi plein.
Ouais.
Un peu les rangées de l'ambiance, qui étaient un peu vides, parce qu'il y a toujours cette barrière là qui est pénible, qui gêne un peu.
Oui, mais puis il y a pas mal de manifestations sur Man en même temps aussi. Donc.
Justement, pour compléter.
Déjà, le regarder à la télé. Sur
moins, et ouais, avec tes commentaires.
Moi, je n'ai pas trouvé pour l'instant West bien en jambes, bien en place dans ce groupe. Il a été assez. Je ne sais pas si c'est timide ou un peu peur. Alors, il a été très expressif.
Alors, je peux te dire qu'il n'est pas timide.
Ouais.
Pas du tout.
Et sinon, on l'envoie en stage avec Laurent. Hein. Ouais. Si c'est juste ça.
Il a été très expressif dans son comportement. Même des fois, quand il sortait, on l'entendait un peu râler parce que j'étais assez devant. Mais dans le jeu, je n'ai pas trouvé encore quelqu'un qui a apporté au jeu du MVL. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, c'est une première journée. Donc, il y a tout un tas de choses à mettre en place. Mais voilà, c'est mon
Patrick veut réagir.
C'est mon petit moins, on va dire.
Ah oui, non, mais pour la petite histoire, je connais quelqu'un qui va être très content d'entendre ça. C'est ma femme qui à la fin du match, m'a dit « Cet Américain, je trouvais qu'il n'a pas été bon. » Bon, j'ai dit « T'es peut-être un peu sévère. » Donc, tu vois, Julien, mais voilà. Donc, Carole, félicitations. Julien, et comme toi, elle a trouvé.
Après,
nous, notre rôle d'observateur, c'est de dire ce qu'on ressent. Et on peut aussi avoir une vision différente des autres. C'est aussi ce qui fait le charme de notre émission, hein, Ludo. Tu diras pas le contraire.
Non.
Et ce qui est bien, c'est qu'au moins, il peut que s'améliorer.
Ah oui.
Non, mais sinon après,
c'est... Alors ça, c'est nul comme phrase.
Non, mais les plus et les moins, il faut pas. Voilà, sinon, pour dire ce que dit Julien, moi j'avais vu très bon le Polonais pendant les matchs amicaux, Lucas Tsoupa, qui est une recrue aussi. Bon, j'ai trouvé qu'il a fait un bon début de match, alors que c'est au moment où on a perdu les deux premiers sets. Mais d'ailleurs, après, Costan l'a fait sortir et il a même pas terminé le match. J'ai trouvé qu'il s'est vraiment délité au fil du match. Et bon, j'attends mieux aussi de ce joueur qui en principe va apporter aussi beaucoup.
Bon, Carole, tu rentres officiellement dans les remplaçants de l'Instant Sport.
Tout à fait.
Alors, donc je disais, dans les autres matchs, Nancy 3, l'Institut Fédéral 0, Fréjus 3, IAC 0, Martigues 3, Saint-Quentin 1, Saint-Nazaire 3, Cambrai 0. Pas de grosse surprise.
Mais il y avait le match au sommet, Saint-Nazaire contre Cambrai.
Oui, mais ça a vite tourné.
Deux grosses équipes annoncées comme parmi les meilleures du championnat. Et puis attention à Martigues qui aussi est Fréjus. Hein, on annonce une grosse équipe de Fréjus.
Eh bien, écoute... Ça tombe bien, ils ont tous gagné là.
Ouais.
Tu disais qu'on était la seule équipe à avoir perdu à domicile, mais quelque part, on est aussi la seule équipe à avoir marqué un point.
C'est vrai.
Peut-être que c'est un point qui peut compter. Quand t'es mené 2-7-0 chez toi, que t'arrives à revenir à 2-2, oui. Même si tu perds encore sur ce fameux tie-break, peut-être qu'à la fin, c'est un point
qui peut marcher. Oui, perdre 3-2, je suis d'accord, c'est synonyme de victoire, perdre 3-2, même si ça ne se traduit pas au niveau des points.
Ça, c'est nul par contre, comme on remarque. Comme dit Julien, on perdait 2-0 avec une balle de match, on aurait pu prendre un 3-0 sec. Quoi, donc.
Voilà, donc c'est presque une victoire de revenir.
Ça, c'est la petitesse des supporters de Montpellier.
Non, mais d'ailleurs, à la fin du match, le coach de Plessis Robinson.
Tu l'as gardé ton classement sur ta porte.
Il était là-dessus en disant. On aurait pu gagner 3-0 et donc il regrettait, lui et le coach, de ne pas avoir conclu ce match au moment où ils en avaient l'occasion sur ce 3-0.
Et moi, j'ai eu le loisir d'interviewer notre ami Jambon, qui a dit...
Parce on aurait fait pu les interviews après le match
mais j'en ai fait une, mais je ne sais pas si
c'est passé,
si
ils
c'est passé
coupé.
Parce que j'arrivais pas à voir la connexion. Mais bref, ça c'est... il dit on aurait pu aussi perdre 3-2 et ça n'aurait pas été illogique non plus.
En tout cas, pour ceux qui nous écoutent et qui sont jamais venus voir du volley, franchement, profitez-en parce qu'on ne sait pas si ça va durer 10 ou 20 ans d'avoir une équipe professionnelle ici en Lozère. Mais c'est pour ça, vraiment profitez-en parce que c'est vraiment du spectacle. Quoi.
Et du coup, l'entrée, c'est comme l'année dernière là ?
Oui, 5 euros et c'est 3 euros pour les étudiants, enfin, il y a un tarif dégressif pour les jeunes. Mais sinon, oui, l'entrée plein tarif, c'est 5 euros.
Il y a un abonnement aussi.
Non, oui, il y a une carte d'abonnement sur la saison.
Sinon, vous dites à l'entrée, je connais Laurent Julien et ça passe nickel. Ok.
Et la semaine prochaine.
Illac.
Oui, Saint-Jean-d'Illac, déplacement.
Qui a perdu 3-0, qui voilà. Sera très revanchard.
Pour deux équipes qui ont perdu le premier match. Ouais.
Oui, mais nous aussi.
Illac, on avait fait quoi l'an dernier?
On avait perdu là-bas. 3-2, hein,
chez mais nous. Là-bas, il y avait l'année dernière Anthony, Carlos Anthony, qu'on connaissait très bien, qui n'y sera plus cette année.
Ah, il a signé où?
En Allemagne. Il a signé chez un club qui
monte en première division.
En première division, où le nom est imprononçable.
Ouais, avec un joli contrat à la clé.
Certainement.
Mmh. Et d'ailleurs, notre Brésilien, tu en parlais, qui a signé au Panathinaikos, là aussi, énorme contrat à la clé pour ce joueur.
Il est titulaire là-bas?
Oui, je crois qu'il est titulaire. Ouais.
C'est assez beau de signer au Pana, hein, parce que niveau supporter, ça donne, ça chante, hein, c'est quelque chose. Hein.
Après, ça, c'est son contrat de travail. Je ne suis pas sûr qu'il sera payé en Grèce. C'est autre chose.
Si ça tourne mal, c'est vrai que ça peut.
Si ça tourne mal.
Oh, non, le Pana.
En tout cas, le Pana, un gros club multisport, hein, football, basket, volley.
Absolument.
Et ils mettent les moyens dans le volley, puisqu'on a discuté un petit peu volleyball avec Patrick et.
Ah ben,
Jean-Michel Le Bar et Christian Bartier cette semaine. Et on parlait justement des budgets des clubs pro. Et donc là-bas en Grèce, c'est quand même largement supérieur qu'en France. Ils mettent plus les moyens. Donc c'est pour ça qu'il y a des résultats plus probants aussi.
Bah oui, évidemment. Bien sûr. La réserve de Mende qui était exempte et la 3 perd 3-7-1 contre la 3 de l'ASBAM Montpellier. Voilà, les filles jouent ou pas? J'ai pas vu. Elles ont perdu aussi.
Il me semble qu'elles ont perdu.
Ok. 1h-3. Tiens, on va faire la pause musicale maintenant et comme ça, après, on part sur le foot, le hand et le basket.
I was there, was a dog away, but my baby, why?
Allez, on est reparti. Football avec la Coupe de France. Alors, la Coupe de France, il restait deux clubs qualifiés, l'ENL et l'AFL. Il n'en reste plus qu'un après pour ce sixième tour. Et ce sera l'AFL après sa victoire à Pollan-Pézenas, 2-0. On s'est vengé d'il y a 3 ans, but de Camille Zulis et de Gourma. Alors, on revient dessus après avoir parlé de l'ENL qui recevait Moulins. Donc, on l'a dit la semaine dernière, un match qui s'annonçait très difficile pour l'ENL. Et il le fut, défaite 4-0, 3-0 à la 15e minute. Patrick, Julien, vous étiez au match. Au bout d'un quart d'heure, c'était un peu plié, non ?
Ouais.
Ah Il y a une phrase qui dit qu'il fallait pas arriver en retard. Hier, c'était ça.
Ouais.
Je suis arrivé à la 8e minute, là, au moment du péno de Moulins. Je pensais que c'était l'ouverture du score. Et puis, j'ai entendu le speaker dire deuxième but pour Moulins. J'ai dit aïe, ça va être long. Et sur le coup franc d'après, au quart d'heure de jeu, coup franc déposé sur la tête de l'attaquant, 3-0. J'ai dit bon.
La voiture chaude, ça aurait pu repartir.
C'est vrai que j'étais à peine dans le stade que. Non, il y a en plus. Le scénario, forcément, il n'aide pas l'ENL. Après Moulins, ils ont complètement géré leur match. Le coach de Moulins a donné beaucoup de temps de jeu à ses remplaçants. Il a fait vite des changements. Ça se voit qu'ils ont parfaitement géré le match. Il n'y a pas, grand chose à dire.
Ils auraient pas beau parcours de.
Oui. Ils auraient pu sauver l'honneur là, sur un coup franc de Sven Voringer là, aux 30 mètres. Là, il a envoyé une grosse frappe sur la barre. Pas été verni. Mais après, on a vu hier, par contre, on a vu les deux niveaux d'écart. C'était flagrant, vraiment.
Patrick.
Non, c'est vrai que j'ai été quand même assez impressionné par la qualité technique de cette équipe de Moulins. On l'avait expliqué la semaine dernière, Moulins c'est une situation très particulière puisque c'était un club qui était en N2 dans la même poule que Yzeure, donc ça faisait des derbies énormes. Et puis bon, pour des raisons politiques et financières, les deux clubs ont fusionné. Et d'ailleurs, ce club-là, Moulins-Yzeure, est toujours en National 2. Mais bon, comme ça se fait souvent dans les fusions, Moulins a considéré qu'ils étaient les dindons de la farce, donc ils ont recréé un club à côté qu'ils ont appelé assez bizarrement l'académie Moulins, et donc c'est ce club qui était à Saint-Chély hier et qui est deuxième de R1 puisqu'on l'avait regardé la semaine dernière, et donc disposé dans un 4-3-3 un peu à la Giroud, à la Auxerroise, avec deux ailiers qui mordaient vraiment les lignes de touche et puis deux ailiers vraiment de débordement qui allaient à 10 000. Et donc je peux te dire que les latéraux de Saint-Chély, ils ont vécu une première mi-temps à l'agonie. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment deux gros joueurs, deux ailiers frêles. Mais alors, avec une rapidité et un sens du dribble et du débordement, bon, c'était quand même assez impressionnant. Et donc, l'ENL a raté son début de match, mais c'est vrai que le plus fort, quand on dit le plus fort à gagner, là, vraiment, Moulins était au-dessus de cette équipe de l'ENL.
Ok, rien à rajouter, Julien ?
Sinon, après, moi, au niveau des joueurs, puisqu'on disait les plus et moins, c'est vrai que moi, j'ai bien aimé Mathieu Gué au milieu de terrain.
C'est bon,
ça. Vraiment, franchement, un joueur qui prend le ballon et qui, de suite, fait la passe de côté pour écarter, pour un peu illuminer le jeu. Et en plus, il a la capacité de franchir les lignes. Il prend le ballon, il est capable de faire 10, 20, 30 mètres avec le ballon vers l'avant. Donc, j'ai vraiment trouvé le patron du milieu. Et puis après, j'ai trouvé, alors je sais pas si Julien, peut-être je connaissais pas, mais ce jeune-là qui joue un pivot devant, là, assez grand, qui est sorti à la mi-temps.
Pivot, c'est pas du foot. Hein.
Qui est sorti à la mi-temps. Et j'ai trouvé justement que son jeune pivot était pas mal. Bougeron, je crois qu'il s'appelle.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Arthur Bougeron. Ouais. Et j'ai bien aimé la façon dont il garde le ballon. Alors c'était pas facile pour lui parce que il était
priori son entraîneur n'est pas d'accord avec toi.
Donc c'est vrai que j'étais je sais pas pourquoi il est sorti, est-ce qu'il était blessé ou pas, c'est un choix tactique, j'en sais rien. En tout cas, moi j'avais trouvé sur les 45 premières minutes il avait quand même réussi à sortir son épingle du jeu.
C'était pas évident pour lui, hein.
Ouais, c'était
il pas
était
seul devant, il y avait déjà 3-0, on sentit que quand ils ont pris le troisième but, il y a eu 10 minutes, un quart d'heure de flottement où ils ont plus voulu se raconter autre chose, les joueurs de Saint-Chély, pour pas prendre une valise encore plus lourde. Du coup, ils étaient bien en place derrière. Après, en plus, sur une deuxième mi-temps, après, il y a le vent qui s'est levé, alors c'est devenu quasiment injouable. Mais non, après, le Mathieu, tu disais c'était le numéro 8, c'est ça ?
Le 7.
Le 7, ah oui, numéro 7, ouais. Ouais, bon joueur, ouais. Par contre, j'ai trouvé, pour ceux qui se rappellent de lui, quand il est passé à à la FL, j'ai trouvé Régis Brunel un peu en difficulté sur son côté quand même.
C'est vrai que c'est pas le meilleur Régis qu'on ait vu. Je suis d'accord avec toi.
Si c'était dû au match. Après, je l'ai pas vu jouer en championnat. Honnêtement, je la connais presque pas, cette équipe de l'ENL. Je connais juste 2-3 joueurs avec qui j'ai pu évoluer. Donc, je vais pas les juger sur hier. Je me permettrai pas ça. Mais c'est vrai que pour avoir un peu connu Régis à l'AFL avec son activité dans le couloir, tout ça, je l'ai trouvé un peu en deçà, on va dire.
Alors, ça doit être lié au match, parce que justement, hier, j'ai un arbitre de l'ENL qui m'a arbitré, qui me disait que cette année était vraiment affûté.
C'est pour ça, je dis, l'ENL, je connais pas trop, donc je me permettrai pas de juger, mais sur ce que j'ai vu sur dimanche, sur hier, c'est vrai que je l'ai trouvé un peu en deçà, mais comme j'ai dit tout à l'heure, le scénario du match, c'est clair qu'il les aide pas. C'est sûr. Prendre 3 buts contre une erreur au bout d'un quart d'heure, t'as vite envie que ça se termine. Mais après, c'est assez long.
Après, ce qu'on peut souligner, et moi, c'est vrai que ça m'a aussi, c'est vrai que ça fait quand même chaud au cœur de voir un stade, quand même, avec cette ambiance avant le début du match. Vraiment beaucoup de monde, et puis quand même une ferveur, quand même, un public qui voulait pousser ses joueurs. Bon, alors, bien sûr, après, au bout d'un quart d'heure, c'était plus compliqué. Mais on sent quand même que l'ENL,
c'est une ville de foot.
Et puis, il y a un nouveau projet. On repart vers l'avant. Et puis, il y avait 4 victoires en Coupe de France et 3 victoires en championnat. Donc, ça fait 7 victoires en 7 matchs depuis le début de la saison. Donc, maintenant, ils vont se concentrer sur leur championnat. On sait que pour monter, tu n'as quasiment pas le droit à l'erreur. Donc, ils veulent retrouver le Régional 2. C'est vrai que je pense qu'ils en ont les moyens. Oui. Et déjà, ce week-end, à samedi, ils ont un match contre Itrac, la réserve d'Itrac. Et donc, il faut continuer. Il faut faire la 4e victoire d'affilée pour rester dans ce haut de championnat.
Oui, parce que ça se voit. Hein. Tu parles de ferveur, d'ambiance. Ça demande qu'à repartir. Hein.
C'est ça.
Ça se voit. Hein. Ils sont en R3, là, ça demande qu'à repartir. R2, pourquoi pas après, si possible, R1. Mais pour attirer comme ça du monde, sixième, cinquième tour de Coupe de France, surtout c'était que, entre guillemets, une R1. Si c'était un peu une N2 ou une N3, on comprendrait la ferveur, mais c'était que une R1 et il y avait belle ambiance et des jeunes qui chantaient et tout un peu, et beaucoup de ramasseurs de balles autour du terrain qui faisaient un peu la fête aussi. Ça demande qu'à repartir dans cette ville.
Comme disait Patrick, faut souligner le bon début de saison. Est-ce que c'est pas quelque part un mal pour un bien, bon, pouvoir se concentrer sur le championnat. On sait que ces petits clubs, quand on fait des gros parcours en coupe, alors Mende a été le contre-exemple il y a quelques années parce qu'il a fait un beau parcours et ils étaient montés de R2 en R1. Mais c'est vrai que selon la profondeur des effectifs qu'il y a dans nos clubs auxerrois, etc., d'être allé plus loin, ça aurait pu être peut-être préjudiciable pour le championnat. Je pense que ça va être la priorité de l'ENL de remonter en R2 et pour l'instant, mais quand on a le début de saison entre le championnat et cette tour en Coupe de France, tous les voyants sont au vert et en espérant que ça continue pour eux. Quoi.
Non, puis, moi j'ai eu aussi beaucoup de bénévoles mobilisés à l'entrée du stade, aux buvettes. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment, pour ce match-là, on sentait que c'était tout un club qui était prêt, qui s'était mobilisé pour accueillir les spectateurs et que tout se passe bien. Et donc, on sent un frémissement quand même du côté de l'ENL après quelques saisons de vaches.
C'est le retour de Mathieu Guay, l'enfant prodige.
Ouais, alors on parlait de profondeur de banc. Moi, la veille, j'ai fait l'apéro avec des joueurs de l'ENL, un long apéro
le samedi.
Et dont un joueur qui m'a dit, mais moi je m'en fiche, je suis 15e, je rentrerai pas. Donc c'est bien, si tu me dis qu'il a fait tourner un peu l'effectif, ça a dû lui faire bizarre.
D'ailleurs, s'il avait le maillot numéro 15, je crois que le 15 n'est pas rentré d'ailleurs.
Ah, mais c'est lui alors, ça va. Oui. Non, moi je suis.
Il était allé au WC juste avant.
Je le salue, on les aura bientôt, le NL. Ils m'ont dit, on va peut-être venir, ça dépendra du score. Et là, ils m'ont envoyé un message hier. Bon, mais finalement, on va reporter notre venue.
C'est vraiment un escroc.
Ça se dit pas, ça déconne.
Mais si, le remplaçant qui joue pas, ils ont le droit de faire la fête. T'as vu ça où, toi?
Tu sais qu'est-ce qu'ils étaient venus s'ils avaient gagné, ça déconne.
Tu sais qu'est-ce qu'elles ont fait, tes filles, la veille de dimanche, c'est-à-dire samedi soir?
Elles étaient à l'ouverture de la saison culturelle.
On les a vues à l'ouverture de la saison culturelle.
Elles vont s'instruire.
Ils sont restés au bar, en fait. L'AFL. Hein ? L'AFL 2-0. On veut monoblé. D'accord. On veut monoblé au 6e tour. Et personne d'autre.
Pas Laurent.
Laurent, il veut recevoir à l'Est pour combattre à l'Est pour la première fois de notre histoire.
Non, c'est pas ça non plus. Mais non, c'est avis à Ludo. Monoblé, ça sera pas si évident que ça.
Merci.
Ça ne serait pas évident.
2-0, Camille Zulis Gourma. On est le dernier club lausérien à être qualifié. On arrive à ce 6e tour.
C'est ça.
On vise le 7e.
C'est le dernier tour régional, puisque à partir du 7e, la D2 entre en piste. Et donc après, toutes les ligues sont un peu mélangées, même s'il y a des zones géographiques. Donc voilà, c'est une dernière marche à franchir pour espérer, comme la saison dernière, avoir une belle affiche. On avait eu le restart au chapitre, donc pourquoi pas, il faut passer. Après, ce sera pas facile parce qu'il y a, pas mal de clubs de N3. Agde, Fabregue, Alès, Béziers, Lune, ouais. Donc bon.
Que Beaucaire, N3, qui a été éliminé à Latte.
Voilà, c'est la seule surprise, 3 buts à 2.
Aigues-Mortes, oui, Aigues-Mortes est toujours là, tu as raison.
Latte qui est dans la poule de mandat.
Oui, ils sont leaders en championnat pour l'instant, 3 matchs, 3 victoires, grosse force offensive.
C'est peut-être ça, sinon on reçoit Latte, on les gagne pour, tu vois.
Non, arrête avec ton Latte, là.
On a dit monoblé, c'est vrai.
Compliqué si tu reçois Latte.
Bon, on devait gagner, on a gagné, tout va bien, vous avez eu des retours sur ce match, était plus compliqué qu'il est paru ou pas?
4 divisions d'écart, ça fait? 4 divisions d'écart, on aurait pu gagner plus largement, d'après ce qu'on m'a dit, j'ai croisé quelques...
Oui, il y a déjà eu deux poteaux dans les 20 premières minutes, je crois, 2-3 actions ratées.
D'accord.
Je crois pas que Paulan ait été bien dangereux.
Non.
Ils ont marqué plus ou moins à des moments clés. En plus, la FL, vers la demi-heure et après un quart d'heure de la fin pour tuer le match. Je crois qu'ils n'ont jamais vraiment douté de ce que j'ai bien compris. Et puis, c'est vrai qu'au tirage, là, ça fait 3 fois qu'on a des D2, 3 fois qu'on revient avec une qualification sérieuse. Donc, c'est bien pour préparer.
C'est bien. Le tirage au sort, c'est quand?
Jeudi, normalement.
Jeudi.
Normalement.
Allez, on va le suivre. Pourquoi normalement? C'est pas sûr?
Il me semble que c'était jeudi. Après, ça peut changer.
Ah, d'accord. On va suivre avec attention alors ce tirage au sort. Jeudi, Coupe Lozère, il y avait un match. Badarou recevait le Valdo.
Badarou recevait le Valdo. 1-0 pour Badarou.
D'accord. Ouais. Pourquoi c'était le seul match?
Parce que le tour de coupe était la semaine dernière.
Ah oui, c'est vrai, c'était
match. Il y a 2 semaines, on l'avait dit, Badarou.
Les matchs ne se ressemblent pas, puisque la semaine dernière, ils étaient déjà affrontés un championnat, il y avait eu 5-0, et là, cette fois-ci, il y a eu 1-0.
Ouais. Non, mais
la semaine prochaine,
le Valdo était un coupe Occitanie. C'est pour ça que ce match de coupe Lozère a été dégagé.
L'OFSL.
Ce qu'on avait dit.
Juste pour préciser aussi par rapport à ce que disait Lolo, les week-ends suivants ne se ressemblent pas. On avait parlé la semaine dernière en disant que ça avait été un peu chaud la fin du match. Donc c'est bien de dire aujourd'hui que le match de hier s'est très bien passé.
Voilà, oui, c'est bien.
Tu as raison, Nico.
Alors en parlant de match qui s'est très bien passé, les féminines, après leur gros apéro de vendredi soir, de samedi soir, recevaient hier...
Ça se voit qu'il n'a jamais fait de sport de sa vie, parce que ça me déconne.
Suissargues, défaite 5-2.
Ouais.
Non, mais il avait dit que c'était la meilleure équipe
c'est vrai.
De la poule, parce qu'ils avaient, elles avaient récupéré des filles des clubs alentours.
C'est ouais, ce que en fait, de latte. Ouais. Voilà. Non, défaite 5-2, on perd 2-0, on entame bien le match, on perd 2-0 au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on revient à 2-1 à la 35e. On fait un match intéressant, puis on prend un troisième but à l'heure de jeu, on revient à 3-2 dans les minutes qui suivent, et puis après on a perdu pied un peu physiquement, parce que voilà, on s'entraîne pas beaucoup et que le début de saison est difficile, et du coup, le résultat fait 5-2. Des bonnes choses à retenir. Si on réitère ce genre de prestations contre les autres équipes de la poule, on connaîtra des week-ends meilleurs.
Allez, d'accord. Cucu a bien joué.
Cucu a fait son match, ouais. But de Jade Beaufils et un CSC qui aurait pu être attribué à Jade Beaufils également, mais qui est un CSC.
Eh bien, on lui attribue.
Non.
Parce qu'on fait ce qu'on veut dans cette émission.
C'est un CSC.
Doublé de Jade. Handball si en National 3, vas-y.
La FL, la une, va encore à l'extérieur, donc ça fait combien 3-4 fois
Mais il y a eu déjà les 3 déplacements en Coupe de France,
ouais.
Déjà, et là c'est le 3e déplacement en championnat.
Voilà, donc
parce qu'il y a eu Rousson, Bagnoles, et là ils vont à Saint-Clément-Montferrier dimanche.
Ah. Ça fait combien d'affilée? Ça fait 4 ou 5 déplacements d'affilée. Quoi.
Ils vont jouer contre un ancien coéquipier, non?
C'est ça, ouais, ils vont jouer contre Yann Barbu qui était au club l'an dernier, et qui était titulaire hier avec Saint-Clément contre Aigues-Mortes.
Ah, mais ils vont jouer contre plein d'anciens alors. Ils
ont marqué le week-end dernier aussi.
Parce que je ne sais pas si vous le savez, Rebolosso a signé à Latte.
Depuis la saison dernière.
T'étais vraiment un escroc, toi.
Et ouais, c'est ça. Allez, en balle.
Ils vont dimanche à 16h à Saint-Clément-Montferrier.
Ok. Voilà.
Dimanche à 16h.
Ouais.
Pourquoi cet horaire inhabituel?
Je crois que Saint-Clément reçoit le dimanche à 16h.
Il reçoit toujours le dimanche à 16h.
Surtout parce qu'ils ont qu'un terrain.
Quand je jouais plus, on y allait jouer des fois et on pouvait pas jouer le dimanche après-midi parce que quand ils recevaient, c'était l'après-midi.
Saint-Clément, ils ont qu'un terrain surtout. Ils ont leur synthétique là-bas. Ernest Broust, d'une qualité moindre.
Avec beaucoup de sable.
Là où j'ai laissé une grosse valise en début de saison. 9-0 avec les U14.
À Montferrier.
Ouais.
Mais à Saint-Clément, c'est aussi un synthétique en plus. Et qui est encore pire.
Mais celui-là, il est pas terrible. Mais bon, voilà.
Allez, handball national 3, les deux équipes féminines de Lozère jouaient contre les leaders Saint-Germain-Blavozy à domicile pour le handball Nord-Lozère et Bruguière à l'extérieur pour le MGC. Même résultat pour les deux équipes. Le MGC perd chez... Qu'est-ce qu'il y a ?
C'était à l'extérieur, le MGC aussi.
C'est ce qu'il a dit. C'est ce que j'ai dit.
Non, t'as dit à domicile.
Non, il a dit à domicile pour le HBNL.
Tu peux suivre, s'il te plaît, quand je parle. Attention. Le MGC défait chez le leader Bruguière 22-17. En plus, on n'est pas là lundi prochain, donc cette émission sera rediffusée. Donc, on pourra l'écouter mercredi, lundi et mercredi d'après.
J'aimerais comprendre la semaine prochaine.
Ouais, c'est vrai.
Tu pourrais faire. Non, sinon, ne rediffuse pas. Si tu t'ennuies cet après-midi, tu fais un best-of des commentaires de Laurent et tu mets ça pendant une heure.
Ah ouais. 3 heures d'émission, bim. Sinon, je mets en entier.
Si on pourrait faire une émission en inventant les scores de la semaine prochaine.
Non, on ne peut pas. Alors, où j'en étais ? Le MGC perd chez le leader Bruguière 22-17 et le handball Nord-Lozère perd contre Saint-Germain-Blavozy 25-38. Alors, ça nous fait, je vais donner un peu les classements. Pour le MGC, Bruguière 1er 12 points, Rocaveyron 10 points, Clermont-Salagou 9 points. Le MGC 4e avec 8 points, Bouillargues 8-5, 5e avec 8 points, 6e Toulouse avec 8 points, 7e Colomiers avec 5 points et Pamiers 8e et dernier avec 2 points. Donc le MGC, 2 victoires, 2 défaites, 87 buts pour, 91 contre, 2e plus mauvaise attaque. Et troisième meilleure défense. On retrouve un peu.
Ça se voit que tu as trouvé les liens des sites. Hein.
Ouais,
tu mets des chiffres, tu mets des stats.
C'est ça. Et je vais aller plus loin encore.
T'es rodé là.
Je vais donner ceux du HBNL. HBNL, premier Saint-Germain-Blavozy, 12 points. Deuxième Montluçon, 10 points. Troisième le HBNL, 8. Quatrième Stade Clermontois, 6. Cinquième Monteil, 6. Sixième Loud, 6. HBNL, 2 victoires, 2 défaites. 108 buts pour, 111 contre. Deuxième plus mauvaise attaque et meilleure défense. Ça se rejoint un peu. Pour le MGC, c'est un peu comme l'an dernier. Hein. On a une bonne défense et on pêche des fois en attaque.
Voilà, on savait que la mission était quand même compliquée. Alors, Bruguière, c'est une équipe réserve, mais c'est un gros club de la banlieue de Toulouse au niveau du hand féminin. Et donc, ils ont tout gagné depuis le début de la saison. Tu perds, comme tu as dit, 22-17. Au final, c'est un match. C'est un bon match, quoi.
Elle menait à une époque du match et elles auraient pu faire l'hold-up, mais voilà.
Le HBNL, c'est un peu plus grand, c'est un peu plus gros comme défaite, 38-25, et c'est également contre le leader Saint-Germain-Blavozy.
Ouais, mais Flo Baudin l'avait dit, surtout ses supports médias. D'ailleurs, il était dans les tribunes du match de l'ENL contre Moulins avec Maxime André. Je les ai aperçus de loin.
La tribune ou la buvette ?
Non, ouais, mais... Bon, ils étaient dans les tribunes, avec des verres de bière à la main, quoi. Ah. Voilà, sans trahir de secret. Mais moi aussi, j'en avais un, donc c'est pour ça que je peux quand même dire.
Oui, ils travaillaient pas.
Oui, oui,
c'est vrai. Ouais,
c'est vrai.
tu as raison. Non, mais c'est vrai que
c'est un fléau, l'alcoolisme, au travail.
Dans le sport.
Et dans le sport, alors.
Dans le journalisme, n'en parlons pas.
Non, mais c'est vrai que cette équipe de Blavozy, là, Saint-Germain, c'est l'épouvantail de la poule avec des joueuses qui viennent de niveau N1, N2. Et qui, d'ailleurs, elles ont raté l'accession l'année dernière pour un seul petit but au Galavorac, parce que j'ai compris. Donc, elles vont pas perdre beaucoup de matchs dans la saison. Donc, défaite logique du HBNL.
Alors, côté stats, HBNL, on va donner un peu. Handball Nord-Lozère, on peut noter les 7 buts sur 10 tirs d'Emilie Bess, 3 buts sur 6 tirs de Camille Brassac, 3 sur 3 d'Aurélie Van Elbaudin, et enfin 3 sur 4 de Saint-Léger Boisset-Tiffen et 4 sur 6 d'Oxana Hall.
Aurélie Van Elbaudin, elle vient de reprendre du coup ?
Oui, ce match. Elle a pris 2 fois 2 minutes aussi. 10 arrêts pour
c'est
le.
Famille, ça.
Ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Fanny Rousset, 12 arrêts en côté goal. Côté MGC, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a Yvelis qui devait pas avoir son goal parce qu'elle a joué goal 15 arrêts. Après, sur les buts, tout le monde marque à peu près pareil. Hein. 2 buts pour Carole Akmel, 3 pour Ludivine Beau, 3 pour Anna Sesko, 2 pour Oran Nikolic, et etc. etc. Voilà pour les stats. Pour les autres équipes, les garçons aussi jouaient du HBNL, les garçons du MGC. Les garçons du MGC perdent à Clermont-Salagou 31-26. Et les garçons du HBNL gagnent 34-13 à Chamalières. Enfin, les seniors départementales filles du HBNL enchaînent une deuxième victoire à Brioude 31-27. On est d'accord ?
Voilà. Et il y a les deux matchs ce week-end pour le MJC à domicile. Et d'après ce que j'ai compris, ben, c'est inversé par rapport à autrefois. C'est les filles qui vont jouer en levée de rideau à 10h30 et les garçons à 20h30. Ouais.
D'accord.
Et donc des matchs hyper importants pour la qualification pour les play-offs ou les play-downs. Puisque les garçons jouent contre Rodez, le Roc Aveyron.
Et les filles, Toulouse.
Et voilà, et Toulouse. Donc chaque fois au classement, je crois qu'il y a un point d'écart entre les deux équipes. Donc il faut absolument gagner pour conforter sa place de qualification pour les playoffs.
En filles, elles sont à égalité avec Toulouse. Et en garçons, comme tu dis, ils ont un point d'avance sur le Roc.
Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, par contre, les filles du HBNL, c'est à l'extérieur. Et là aussi, je crois, un match important, parce que contre un club qui va lutter... pour la qualification en play-off. Je ne sais plus contre qui c'était.
Ok, je ne sais pas.
Je ne sais pas qui est comme équipe un peu, qui t'a dit au classement, non, tu ne l'as pas dit ?
Si, je l'ai dit. Montluçon, Stade Clermontois.
Je crois que c'est Montluçon, ouais.
Allez, qui est deuxième avec 10 points, donc à 2 points. C'est ça.
Je crois qu'elle va à Montluçon. Ouais.
Allez, on finit ces résultats lausériens avec le BCM Basket Cosmondois qui perd de. Qui est mieux, hein, qui perd à Olympe 66 à 43, qui était juste à moins 7 à la mi-temps, qui commence à progresser. Eric, le coach, nous l'avait expliqué qu'ils avaient commencé tard l'entraînement. Donc le top form sera plus tard dans la saison, évidemment. Associé. Les pronostics. Pourquoi tu ris Pourquoi je respecte rien?
Parce que tu dis qu'ils perdent que moins 20, du coup ils sont mieux.
Bah, quand tu te rappelles du dernier résultat?
Ouais.
Il y avait moins combien?
Non, mais d'accord.
Oui, sur ça.
Non, mais. Non, mais c'est de la façon dont tu le dis qu'il perd.
Partir du principe, c'est un journaliste radio qui n'a jamais fait de sport à compétition et qui ne comprend pas le vocable.
C'est le coach qui m'a dit qu'il y avait du mieux. Moi, je répète ce que me dit le coach. C'est mon réseau.
Pas de souci.
Hein? Alors, les pronostics, le mec qui comprend rien, qui a un point, qui est deuxième du classement, médaille d'argent.
T'avais trouvé sur quoi? Parce que j'ai raté une ou deux émissions, là, sur quoi t'avais raté?
Sur quoi j'avais trouvé, je
sais plus. J'en sais rien. C'est un miracle qu'il ait trouvé.
C'est pas que... un invité qui avait trouvé pour toi.
Non,
c'est lui qui l'a trouvé, non.
Non, je crois que c'était Paris, un truc comme ça. Comme Patrick, on marque sur Paris, non. D'ailleurs, je t'ai pas donné ta médaille, parce que c'est pas une coupe que t'auras, c'est une médaille.
Super, c'est de plus en plus petit, de plus en plus inutile, quoi.
Ah non, mais elle est jolie, je t'ai fait une belle chaîne, là, tu vois. C'est top. Les pronostics. Alors, donc Patrick a trouvé le bon résultat, 1-0 pour la France et prend la tête du classement. Des pronostiqueurs. Par contre, la Macédoine du Nord, Slovénie. Julien, tu nous avais dit 3-1 pour la Slovénie en Macédoine. Il y a eu 2-1 pour la Macédoine.
Et du coup, hier, dans mon ticket sportif, j'ai parié contre la Slovénie. J'avais mis l'Autriche et j'ai bien fait, quoi.
Et ouais.
Ils sont vraiment nuls, en fait.
Ils sont vraiment nuls, ouais, c'est clair.
Parce que quand je vois que Beric est remplaçant, je me dis que...
Ouais, c'est vrai.
Sacré potentiel offensif en Slovénie.
Tom nous avait dit 2-0 pour le Monténégro contre la Bulgarie. Ça a couché d'un 0-0. Normal. Alors, comme nous sommes en repos la semaine prochaine, que nous rediffuserons cette formidable émission, 4 pronostics pour aujourd'hui. Attention, France-Turquie qui a lieu ce soir. La semaine prochaine, le retour de la Ligue des Champions, Bruges-Paris, Benfica-Lyon et Lille-Valence. Alors, c'est difficile. Je rappelle en début d'émission que M. Julien Gall a gagné le petit jeu, la nouvelle chronique d'introduction. Donc, il a le droit de choisir...
Quand tu dis nouvelle chronique, ça veut dire que tu vas répéter ça,
ah oui,
le fait du week-end.
Le fait du week-end ou le score du week-end.
J'aime bien l'idée.
Ah,
ouais, franchement, le fait du week-end, le score du week-end, j'aime bien l'idée.
Ouais, moi aussi, j'aime bien. Peut-être qu'un jour, on aura les féminines qui vont nous ouvrir. Non, c'est victoire
C'est sûr qu'on n'aimera jamais avec toi.
Hein. Alors, qui commence?
Toi.
Allez, moi, je commence. Ok, France-Turquie, 2-1. Non, remarque, on n'arrive pas à marquer. Un partout. Alors, Mathilde nous dit 0-0. Tom nous dit 1-0 pour la France. Patrick?
2-0 France.
Ok.
2-0 France.
Ok. T'as vu, c'est que Patrick marque des points.
Non, c'est ce que je voulais dire, ça n'allait pas changer.
Allez, comme t'as dit qu'on n'allait pas réussir à marquer, 3-1 pour la France.
D'accord.
2-0 pour la France.
D'accord. Mais lui, tu dis rien par contre.
2-0.
Je l'avais déjà noté avant l'émission.
Ouais, il l'avait noté.
Non, mais pas de souci.
Alors, on continue par moi. Alors, j'ai perdu. Bruges, PSG, je vais dire 0-3 pour Paris. Mathilde nous dit 0-2 pour Paris et Tom nous dit 0-4 pour Paris. Patrick.
1-2.
Il serait revenu Neymar ou pas? Qu'est-ce
non,
qu'il a la cuisse?
Il est blessé là, je pense qu'il ne jouera pas.
1-2, ok.
0-4.
C'est quand ce match?
0-4.
C'est la semaine prochaine.
C'est pas
mardi.
C'est pas cette semaine.
C'est pas demain, c'est la semaine prochaine.
Vas-y.
Bruges-Paris. Bruges-Paris, 1-3.
1-3, ouais. Laurent.
4-0 pour Paris.
D'accord. 3, on va dire 3 que 4-0. Ouais.
Attention okay. à Bruges.
Quand même. Moi, si je gagne deux pronostics, ça veut dire qu'il y en a deux autres qui gagnent des points aussi.
Ouais, donc c'est pas bien ce que tu fais, Nico. Tu n'arriveras pas à te démarquer.
Je dis pas qu'ils vont galérer, pas.
Non, mais... dis pas 2-0 pour Lyon.
Ça fait 2-2, Bruges.
Ah non, je vais pas dire ça.
Oui, on verra. Alors, Benfica, Lyon, c'est dur tout ça. Hein. Moi, je vais dire.
C'est Garcia qui sera l'entraîneur, donc attention pour vos pronostics.
Ouais, attention.
Ah oui, par contre, si c'est Gourvenec, je vais changer mon truc. Moi, par
ouais.
Le score s'inverse.
0-1, je dis. 1-0 pour Lyon. Mathilde dit comme moi, 1-0 pour Lyon. Et Tom dit 1 partout. Patrick
0-0.
2 partout.
2-1 pour Benfica.
Ok.
2-0 pour Lyon.
Très bien. Allez,
un choc psychologique du coach.
Ouais. Alors, on finit avec Lille-Valence. Je dis un partout. Mathilde a dit Valence, un partout.
J'ai même Tom, que Mathilde.
Tom a dit un partout. Patrick dit...
Il joue en quoi, Valence? R1
c'est la région de... C'est ouais, c'est la Drôme.
C'est la Drôme. Ligora. Donc, 1-0 pour Lille.
1-0 pour Lille. Ok.
C'est le sixième tour de Coupe de France.
2-1 pour Lille.
Ok.
2-1 pour Valence.
Ouais.
Et 2-0 pour Lille.
Il y a que moi qui vois Valence.
Ouais.
Il y a que toi qui vois Valence, mais je pense que tu n'es pas loin.
C'est qui a comme joueur majeur là-bas?
Gamero.
Il y a Gamero.
Ah, Gamero. Ouais.
Il y a Diakabi, hein, celui qui jouait
à Lyon. À Lyon. Derrière,
ouais. Mouktar Diakabi.
Moi, ouais, c'est pas trop dégueulasse en ce début.
Il n'est pas un ancien parisien là aussi? Ah non, ils l'ont vendu à Tottenham. L'Ocelso.
Ressé,
je vois Palmeiras.
Qui joue à Petit Séville.
Qui est Guedes.
Ah oui.
Guedes.
Gonzalo Guedes. Qui ont vendu
ouais,
à Tottenham.
Ah oui, excellent joueur, Guedes.
Ok. Rugby, Pays de Galles, France, dimanche, ça donne quoi? On se qualifie? Moi, j'y crois. Ouais, moi. Toi aussi, tu crois? Ouais, c'est sûr.
C'est quel jour?
Dimanche? Il faut un chiffon.
9h15.
Déjà, je t'annonce.
Il faut un chiffon.
On bat le Pays de Galles. Après, on prend le Japon en demi. Et quand ils seront cuits après leur exploit contre l'Afrique du Sud, on va les battre. Et en finale, la Nouvelle-Zélande.
Ils nous en mettent 70.
Ils ratent tout. Et puis à la dernière minute, on marque un essai.
Par Lopez.
Et s'il y a un typhon en finale, comment ça marche?
Ah non, il n'y a pas.
Ramos.
S'il y a un typhon en finale, comment ça marche?
S'il y a un typhon.
Parce que ce que tu dis, c'est probable. Et jusqu'au typhon en finale, on peut être pas mal. Ouais.
Alors s'il y a un typhon, c'est 0-0. Mais comme on a gagné plus de matchs que les Néo-Zélandais, c'est nous qui gagnons.
Mais voilà. Tu vois, on passe les deux tours. Un petit typhon. Merci, au revoir.
Tu sais qu'il y a, je crois, il y a une règle comme ça en quart de finale, il me semble un quart, je sais pas,
oui, j'ai un truc, si c'est ça, je l'ai pas, par contre.
À la pièce.
Je l'ai, non, mais j'ai pas trop, approfondi l'article, si mais je crois qu'il.
C'est le Pays de Galles qui passe. si, je l'ai lu, sur l'équipe, ça y est.
Ils ont, tu peux décaler les matchs.
Ils ont fini premier.
Deux, trois jours. Nous, tu peux décaler les matchs, et si vraiment ils arrivent pas à jouer un jour, mais ils prennent en compte les résultats de la poule, quoi.
D'accord, donc on perd contre le Pays de Galles.
Oui, c'est quand même magnifique. Je
ça veut dire qu'on perd contre la Nouvelle-Zélande parce que la Nouvelle-Zélande a gagné plus de matchs que nous.
Non, ça marche que pour les quarts et les demi.
Ah,
ça marche pas pour la finale. Non,
la finale, tu repousses jusqu'à Noël.
Bon.
À Noël, t'arrêtes par contre.
Tu la joueras au Qatar en même temps que la
finale. C'est vrai. À lever de rideau.
Non, bon, en fait,
dans la finale, la Coupe du Monde.
C'est ridicule.
Ça n'empêche que le Pays de Galles, hier, a eu des difficultés à se séparer de l'Uruguay.
Oui, c'était les remplaçants.
Mais c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de mal.
On a le droit de faire des polémiques sur le rugby, là? Oui, Patrick, toi qui suis là, ouais, celui qui est rentré à Toulouse, là, qui était blessé, qui est rentré pour blessure.
Je te dis qu'il allait marquer un final.
Ouais.
Qui était blessé pour rentrer pour blessure et qui, le mec, il joue avec son club, normal.
Oui.
Mais alors, il était blessé ou il était pas blessé?
Eh ben, alors.
Visiblement, c'est
au Japon.
Je pense.
C'est pas en France.
Ouais, voilà.
Tu peux jouer en étant blessé aussi.
La réglementation.
Je pense qu'il était blessé, mais le problème qu'il a eu, c'est que, en fait, il y a qu'un vraiment arrière de métier. Dans cette équipe de France, donc lui c'était le deuxième, parce qu'en fait ils ont fait le choix de mettre plutôt des mecs après polyvalents, et donc en fait s'il était blessé et s'il y avait eu ce match contre l'Angleterre, tu faisais qu'avec un seul arrière, et donc c'est vrai que le staff, il faut d'abord que tu montes tout un dossier pour dire que ton joueur est blessé, après vu la distance qu'il y a entre la France et le Japon pour faire venir le remplaçant, ça met un certain jour, donc le staff a pris la décision de le récuser pour permettre à son remplaçant d'arriver au Japon pour qu'il soit opérationnel contre l'Angleterre. Donc c'est pour ça qu'ils se sont précipités en disant qu'il était blessé pour avoir ce remplaçant sous la main.
Ouais, mais ça se comprend
en
alors.
En fait,
ça c'est l'explication du
coach. Le match a été remis, et c'est vrai que si tu avais su ça que le match allait être remis, ben
il l'aurait laissé au soin.
Tu l'aurais gardé, et puis comme ça il aurait été opérationnel pour le quart de finale. Et
il est bon celui qu'on a pris à sa place. J'ai pas vu qui c'était.
C'est pas tellement un arrière de métier aussi, donc.
C'est pas
après,
possible.
Après, c'est vrai que.
Après Ramos, ils ont pris Varane.
Ouais. Non, mais c'est vrai que ça donne une impression un peu de gâchis parce que bon, ce joueur, ben, peut-être, ou alors il y a des choses qu'on ne sait pas, ils ont voulu s'en séparer parce que ben, peut-être qu'il y avait des problèmes dans le groupe.
Oui, ça, c'est possible aussi qu'ils ont prétexté.
Il a fait une Adil Rami, il a déclenché l'extincteur à l'hôtel.
Après, comme tu dis, Ludo, voilà, c'est. Moi, sur le truc qui se de loin, ça fait un peu quand même beaucoup les histoires sur la Fédération française de rugby depuis le début du champion, depuis le début de la Coupe du Monde.
Sans que tu le suives de loin, hein. Ça a pas fait les gros titres, mais dans les infos, ça en parlait quand même, quoi. Comment un mec qui quitte le mondial peut jouer en championnat.
Il y a eu l'autre info de celui qui s'était vraiment blessé la dernière fois. Je sais pas si vous avez suivi qu'ils ont rappelé un gars de Bordeaux-Bègles, mais de Bordeaux, je sais pas où là-bas, qui en fait, c'était pas un gars qui rappelait parce que le sélectionneur devait l'appeler avant.
La Rochelle.
Antonio était blessé.
Voilà, quand il était blessé, en fait, ils ont dit qu'il revenait en sélection alors que le mec était blessé, ils s'en sont rendu compte après, enfin. C'est le service com qui allait plus vite que l'entraîneur.
C'est pour ça qu'on va la gagner cette Coupe du Monde.
Après, mais ça fait beaucoup de choses quand même.
Après, c'est vrai que c'est très français, hein. Il n'y a rien qui va, on peut aller au bout.
Oui, c'est ça.
Quand tu vois Ramos, jouer ce week-end.
Et bien joué, Prudence Dugarry.
Il est plein de forme. Ça, c'est sûr qu'il est opérationnel.
Il a pas mal la cheville.
Il est opérationnel.
Non, mais pour un rugby qui, depuis quelques années, n'a pas de résultats, en plus, en termes de communication, quand tu vois ce qui se passe au mondial, on dirait la France de foot en 2010, quoi.
Non mais c'est vrai que
on peut pas égaliser la France de
football. Non mais c'est bien français, et tu joues tout en fait dimanche contre les Gallois parce que si tu bats les Gallois, ben tiens une demi-finale, ben voilà la méthode de Galtier, tout ça.
Par
ça
contre,
apporte.
Si tu te fais défoncer, si tu prends
40 points, quand tu prends 40 points contre les Gallois, alors là je peux te dire que la fédération ça peut exploser.
Ça va parler de 40 points, c'est sûr. Parce que vu la tranche des victoires contre les Tonga et les États-Unis, je pense que même si tu perds 3-0 contre le Pays de Galles, tu diras.
Je vous rappelle, si on fait une comparaison avec le football au premier tour de la dernière Coupe du Monde, on n'était pas quand même très serein. Après avoir battu le Pérou miraculeusement, l'Australie miraculeusement, et je sais pas qui,
le Danemark,
on sortait d'une campagne de qualification, on s'est qualifié assez facilement.
Contre l'Argentine, Deschamps n'en parle plus.
Oui, mais bon, si on regarde les résultats qu'il y avait avant, on avait passé une qualification de Coupe du Monde assez facile, on était allé en finale de l'Euro. Pour se qualifier à Coupe du Monde.
Ah, mais les qualifs, on n'en parle plus une fois qu'on est à la Coupe du Monde.
Les 5 ans qui mettent plus un pied devant.
Va, on peut aller au bout.
En tout cas, c'est vrai que cette première phase.
On va se faire défoncer contre les Gallois, en fait.
Cette première phase de Coupe du Monde de rugby, bon, c'est vrai que c'est long et il n'y a pas toujours des matchs qui font vibrer. Mais là, en tout cas, les quarts de finale, vraiment, on va se régaler parce que Angleterre, Australie, Nouvelle-Zélande, Irlande. Bon, nous, on joue contre les Gallois. Et puis, tu as cette équipe japonaise, je sais pas, bon, on était à Saint-Chély, donc on pouvait pas tout voir, mais c'était en même temps. Mais contre l'Écosse, si vous regardez les résumés, il faut voir, c'est fabuleux, quoi, de voir jouer ces mecs, ces Japonais. Alors, il y a beaucoup de naturalisés, il y a beaucoup de non-japonais.
Oui, mais c'est dynamique, c'est
chouette. Mais bon, c'est vrai que je trouve vraiment un rugby attrayant. Et donc, ils vont jouer contre l'Afrique du Sud. C'est la revanche d'il y a 4 ans, puisqu'ils avaient fait leur premier exploit il y a 4 ans en battant l'Afrique du Sud. On va vraiment se régaler samedi et dimanche, parce qu'il y a 2 matchs samedi et 2 matchs dimanche. Ceux qui aiment le rugby, on va se régaler.
Tu sais, Patrick, j'ai regardé dimanche matin les États-Unis contre
Tonga.
Il n'y avait aucun enjeu. Hein, donc, mais les mecs, ils se donnaient à fond et c'était super. Il n'y avait pas de retenue. Et bon, il y avait bien sûr des ballons perdus un peu bêtement, bien sûr. Mais par contre, c'était vachement ouvert. Et ça m'a autant plu comme match qui est vraiment serré où les mecs se rendent dedans, boum, ils avancent 2 mètres, ils sont contents. C'est bon, merci, au revoir. Non, là, ça y va. C'était sympa.
Moi, je suis d'accord avec Laurent. Je regardais le rugby quand j'étais plus jeune parce que tu voyais des scores où les gens jouaient et tout, machin. Maintenant, tu regardes les top. Alors, je sais pas, ça fait quelques années que je regarde plus du coup, mais souvent, c'est des matchs où les mecs, ils progressent de 2 mètres pendant 10 minutes, contents, ils gagnent 6-3.
Fait, on a avancé de 2 mètres. Non, c'est bon.
Moi, j'aime bien ce rugby quand on s'avance de 2 mètres, il y a du 6-3.
Mais t'en sérieux, t'avais même pas qu'il y avait une Coupe du Monde avant qu'on
passe à la défense.
En tout cas, face au Galles, c'est dimanche à
9h15. Non, mais c'est peut-être un détail pour vous, mais.
Pour nous, ça veut dire beaucoup.
Pour nous, ça veut dire beaucoup.
Allez, on se retrouve dans 2 semaines. Ciao tout le monde.
Bonnes vacances.
Leslie John au couloir en numéro 2. Allez, Leslie, c'est parti pour Leslie John.
La performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Peter Marquet. Je ne dis rien.
C'est le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Du petit apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Du petit apéro.
Allez Louis.
Allez mon petit bonhomme.